enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne peux me vanter que de la croix.
Où
mon sauveur fut offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune envie. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis,
c'est Jésus,
c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
Il est bon de louer l'Éternel ce matin. La joie de l'Éternel est ma force. Cette prière que l'on chante, c'est notre proclamation, notre déclaration, et on va le dire: tout en moi, Seigneur, veut t'adorer.
Tout en moi veut t'adorer.
Oh, chante Église, confesse-le ce matin.
Tout en moi veut.
Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ta dévotion ce matin.
Tout en moi veut t'adorer.
Hey.
Tout en moi veut t'adorer.
Hey.
Tout en moi veut t'adorer.
C'est la prière de mon âme.
Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais
allez-y, Église!
Je suis à la lumière.
Hey!
Oh! Tout en moi veut l'adorer ce matin. Tout en moi veut l'adorer.
Tout en moi, toute ma vie.
Tout en moi veut t'adorer.
Oh, chante l'Église.
Tout en moi veut t'adorer.
Oh,
tout en moi veut t'adorer.
Tout en moi veut t'adorer, Seigneur. Tout en moi. Qui est heureux d'être enfant de Dieu ce matin? Si vous êtes heureux d'être enfant de Dieu,
dis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Son amour pour...
Oh, enfant de Dieu, proclame-le.
Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son... J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé.
C'est Jésus qui nous sauve.
Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à...
Et dans sa maison ce matin.
Et dans sa maison. suis enfant de Dieu. Je suis un.
Confessons-le, je suis choisi.
Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui
je suis choisi. Je suis choisi et affranchi.
En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis.
En toi,
oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis ami. Sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis ami. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma
Que le moment n'est pas bon pour lever nos mains vers le Seigneur et commencer à élever nos voix, de dire merci parce que je suis ton enfant, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous étions tellement différents, Seigneur, mais tu as fait de nous un royaume. Tu as fait de nous, Seigneur, un seul peuple. Nos races, nos cultures, nos arrière-plans ne nous séparent pas ce matin. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes un seul peuple en Jésus-Christ. Élevons nos voix ensemble et confessons encore « Je suis choisi, je suis affranchi » et que le nom de Jésus dans ce lieu soit adoré ce matin. Je suis.
Je suis choisi et affranchi en toi.
Tu es pour moi, pas contre moi. Oh, en toi, je sais.
Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais.
Je suis choisi.
En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
Je suis choisi et affranchi.
En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
En toi je sais qui je suis. Sa maison de l'épice ce matin.
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis ami.
Et dans sa maison. Et dans sa maison, et dans sa maison,
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis ami.
Amen. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. On veut continuer à le célébrer ce matin en chantant sa résurrection, en chantant sa victoire. Permettez-moi de vous lire un texte qui parle de la victoire de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors à ce moment-là, s'accomplira cette parole de l'Écriture. Écoutez bien ça ce matin. La mort a été englouti dans la victoire de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon du péché, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer celui qui nous donne la victoire ce matin? La victoire est dans le nom de Jésus. Amen. La victoire est dans le nom de Jésus. Oh, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Est-ce qu'on peut adorer dans ce lieu en toute liberté, en chantant, en priant, en étant dans le silence, peu importe la forme que prend ta lumière, ta prière, que la lumière de Dieu t'envahisse ce matin. Vous êtes ce peuple de l'esprit, ce peuple qui se laisse conduire dans des temps de liberté où chacun dans la présence de Dieu peut faire monter sa voix. Nous, nous allons chanter, le chant ne sera peut-être pas connu, mais nous voulons le chanter, nous voulons dire à Jésus toute notre adoration ce matin. Que ce lieu soit un lieu de prière pour toutes les nations ce matin. Amen. 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 Est-ce que l'Église est là ce matin? Alléluia Seigneur, nous t'adorons, nous célébrons le nom de Jésus. Oh, nous t'adorons, tu es vivant, nous t'élevons, Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Nous t'adorons, tu es vivant, tu es vivant. Nous t'élevons, Dieu tout-puissant, nous t'adorons, tu es vivant. Nous t'élevons, Dieu tout-puissant, nous t'adorons, tu es vivant. Tu es vivant, nous t'élevons, tu es puissant. Oh. Nous t'adorons Jésus. Veut dire louer soit l'Éternel, chantons-le.
Chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé.
À jamais.
Dans un Dieu qui est vivant ce matin. Notre Dieu n'est pas fait de pierre, de chaume. Son bras n'est pas trop court pour secourir. Notre Dieu entend nos prières. Dieu a entendu tes prières cette semaine. Ton Dieu est vivant. La terre tremble quand le nom de Jésus retentit. Jésus est vivant. Alors une dernière fois, juste vous Église, chantez Alléluia.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons
Alléluia. L'agneau a triomphé,
l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia.
Chantons le triomphe de Jésus dans ce lieu.
L'agneau a
une dernière fois, chantons Alléluia.
Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé.
Amen. Le triomphe de la croix.
Alléluia.
On l'oublie souvent, mais c'est l'Église qui est la chorale du Seigneur. Alors Dieu va entendre sa chorale chanter ce matin. Ô Jésus.
Ô Jésus.
Petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, chante-le avec nous, ô Jésus.
Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi, jour après jour.
Chante, Seigneur.
mon Jésus, mon Sauveur. Amen. Qui croit que Jésus est votre Sauveur.
Amen.
Amen. C'est tellement bon comme dans les chants, dans le temps de louange, on sait qu'il y a un Dieu qui nous aime. On sait qu'on est enfant de Dieu. On sait qu'on est aimé. C'est juste merveilleux. Amen.
Amen.
Amen. Et comme vous le savez, la vie de l'Église, c'est pas que le dimanche matin. Et il y a plein de choses qui se passent, et surtout pendant le mois de mars. Oui, la première, c'est la journée de la femme, le 8 mars. Amen. Amen. Alors, nous vous invitons le 8 mars à une journée spéciale pour les femmes. Un Women's Day forgé et prête. Ok, on aura l'honneur et le privilège d'avoir Summer avec nous, qui fait partie de l'église de Lille Métropole. Et elle va nous apporter un enseignement, nous encourager le matin et l'après-midi. Il y aura un talk show. Vraiment, inscrivez-vous, mesdames. Alors, je sais qu'on ne dit plus mesdemoiselles, mais je vais le dire quand même. Mesdemoiselles et mesdames, inscrivez-vous. C'est une journée pour vous. C'est une journée pour nous, pour qu'ensemble, on puisse se faire du bien. Alors, vous verrez dans le hall, il y a encore un stand pour vous inscrire. Les places sont illimitées. Profitez-en pour qu'on puisse savourer ces moments ensemble. Nous avons aussi un événement de taille le 23 mars. Un grand événement. Notre Assemblée Générale Ordinaire. On le fait chaque année. Alors, pour une grande église comme celle de l'Épi, ce qui fait office de convocation, c'est les affiches qui sont là au fond de la salle. Vous avez l'ordre du jour. Et nous invitons tous les membres de l'Épi à venir le 23 mars pour notre Assemblée Générale. Si vous vous posez des questions en disant « Est-ce que je suis membre ? Est-ce que je suis pas membre ? Qu'est-ce que c'est d'être membre ?» On aura Xavier, qui lève la main là-bas au fond, voilà, il est là, qui répondra à ces questions et qui sera à votre écoute. Merci Xavier. Il y a aussi les procurations. Il y a aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir le 23 mars, vous avez les procurations aussi aux tables qui sont à votre disposition. Vous pouvez les prendre. Et vous avez le droit à 2 procurations par personne. Voilà. On continue. Un grand événement encore le 29 mars. Conosco. Qui le connaît ? Eh bien alors, tous ceux qui ne le connaissent pas, vous venez le 29 mars pour faire sa connaissance. C'est un temps vraiment, un concert qui va nous offrir concert d'évangélisation, rap, gospel. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh là là, le rap !» Mais retenez évangélisation. On va parler de Jésus, il va chanter Jésus, il va le louer, il va peut-être même le danser. Invitez des personnes. C'est un samedi soir où d'habitude tous les gens sortent. Dites-leur, au 7 rue des Frères Hébert, il y a un concert que tu ne peux pas manquer. Viens, invitez-les, venez nombreux. Enfin, on pourra accueillir beaucoup de monde. Tout ce qu'on peut, la capacité qu'on peut. Hein, ok. Et enfin, il y a un jeûne et prière du 7 au 11 avril 2025 qui est organisé par Michel Schneider et les Assemblées de Dieu de Sa Réunion. Donc, il y a toutes les informations et les inscriptions qui sont disponibles à l'église. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut au stand, vie d'église. Voilà. Maintenant, je vais inviter Jérôme, si tu veux bien. On va prier pour lui, vous êtes d'accord ? On va se lever, tous ensemble, s'unir. Merci Seigneur pour mon frère. Merci de l'avoir choisi et équipé, Père éternel, pour encore nous parler ce matin. Vraiment, qui nous parle de ta part. Seigneur, que ton esprit le remplisse, Seigneur mon Dieu. Et qu'il puisse encore, Seigneur, au travers de qui il est, Seigneur mon Dieu, nous apporter le bon message de ta parole. En ton nom, j'ai prié. Amen.
Amen. Merci Anne, merci à vous pour vos prières. Qui a été béni par le temps de louange ? Ok, moi ça m'a vraiment fait du bien de louer Jésus. C'est quelque chose qu'il mérite, mais ça nous fait du bien en même temps. On est gagnant dans tous les cas, c'est incroyable. Dieu est tellement bon envers nous. Très content d'être avec vous ce matin. Je vais commencer avec une petite histoire. Début 2000, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez le pasteur David Wilkerson, qui a eu un mystère incroyable, notamment avec Nicky Cruz, un film, je pense que c'est un des films les plus regardés dans le milieu chrétien, un croix, une poignard,
inversé. Vous m'avez compris. Vous suivez. Vous êtes avec moi. Alléluia. Une croix, un poignard, une croix, je ne sais plus c'est dans quel ordre, mais en tout cas. La croix et le poignard, exactement. Exactement. Film incroyable. Début 2000, David Wilkerson se retrouve dans le sud de la France pour une conférence dans un stade. Il y a 4-5 000 personnes à peu près qui sont attendues. C'est vraiment pour partager l'évangile. Donc les trois quarts ne sont pas chrétiens. Il est accompagné de son traducteur, le pasteur Claude Wood, avec qui j'ai travaillé quand j'étais au Canada. Puis c'est lui qui racontait cette histoire. Ils arrivent dans le stade. Et là, 4-5 000 personnes qui attendent, c'est un gros événement, ils ont fait une pub incroyable pour ça, le stade est rempli, et là ils arrivent, il y a le comité d'organisation qui accueille David Wilkerson, qui lui disent, bah, écoutez, il faudrait rencontrer certaines personnes, on vous a préparé certaines rencontres pour des interviews, etc. Et là, le pasteur David Wilkerson, il sent à l'intérieur de lui qu'il faut qu'il s'isole. Il dit, non, écoutez, je préfère m'isoler, j'ai l'impression qu'il faut que je prie, qu'il faut que je recherche la face de Dieu, qu'il faut que... Et du coup, il dit ça à Claude Wood, le pasteur qui le traduisait, puis ils essaient de négocier. Ils disent, ok, bon, mais juste quelques minutes. Ils l'emmènent dans un vestiaire, béton brut par terre, il n'y a pas de chauffage, rien. Ils le laissent là quelques minutes, et puis ils repartent. Et 10-15 minutes après, le pasteur Claude Wood arrive, ouvre la porte, et il voit David Wilkerson à plat ventre, en train de crier. « J'ai pas de message !» Je suis sec, j'ai rien, je suis vide, j'ai aucune parole pour eux. Et là, le pasteur Claude, il ferme la porte tout doucement, il recule et il s'en va comme si rien n'était. Il dit, ok, je ne vais pas le déranger. Et là, le comité arrive, il dit, ok, est-ce qu'il est prêt? Il fait, ouais, laissez-lui quelques minutes encore. Quelques minutes. Le titre de mon message, c'est Seigneur, j'ai perdu toute force. J'ai perdu toute force. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être épuisé dans ta foi? Moi, je lève la main à chacune de mes questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, t'as l'impression, au plus tu suis Jésus, au plus t'es épuisé? T'as beau prier, t'as beau être discipliné, t'as beau servir, t'as beau faire toutes les choses que la Bible dit, tu manques de force, tu cherches un renouvellement, mais tu le trouves pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? On va regarder l'histoire d'un homme dans l'Ancien Testament, un gars qui a un des plus grands témoignages, et puis c'est un des seuls personnages dans l'Ancien Testament où ses péchés ne sont pas mentionnés. Il s'appelle Daniel. Daniel, un homme intègre, un homme qui a eu un témoignage où il y préférait mourir dévoré par des lions plutôt que d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Il a préféré ne pas se compromettre avec les mets du roi. Il a fait aucun compromis. Et il était tellement rempli d'esprit de Dieu qu'il était capable d'interpréter des rêves que seul lui pouvait interpréter grâce à Dieu. Et on va regarder à sa vie, notamment de Daniel 7 à Daniel chapitre 10, où là, dans la deuxième partie du livre, Daniel 1 à Daniel 6, c'est là où il va vivre, il va être au service du roi. Et voici ce qui est dit de lui, c'est vraiment intéressant. Voici ce qui est dit de lui. Donc c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui prie à chaque jour, même si c'était interdit à l'époque. Quelqu'un qui va suivre Dieu. Et dans la deuxième partie du livre, à partir du chapitre 7, il va commencer à recevoir quelques visions. Des visions incroyables que beaucoup d'entre nous, on aimerait recevoir. Parce que c'est quand même quelque chose, toutes les visions qu'il a reçues. Ça parlait de la fin des temps, ça parlait des rois, des guerres de son époque. Sauf que lui, il va le prendre différemment. Il ne va pas être excité à l'idée de recevoir ses visions. Voici ce qu'il dit de lui quand il reçoit ses visions. Daniel 7, verset 15. « Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. » 7, 28. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées, j'en ai changé de couleur. 8, 18. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. 8, 27. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade. Malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi. Mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Plus Daniel recevait des visions, plus il était affaibli. Pourtant, c'était des paroles qui venaient de Dieu, c'était des paroles qui venaient d'un ange qui est envoyé par Dieu. Normalement, c'est censé être l'inverse. Les paroles que tu ressors de Dieu, normalement, elles sont censées t'encourager. En tout cas, c'est l'idée qu'on a. Normalement, c'est censé t'encourager. Mais Daniel, plus il recevait des visions, bizarrement, plus il était terrifié, plus il était angoissé, plus il manquait de force, plus il tombait malade. Et 8-9 ans après, ça c'est Daniel 7 à Daniel 8, on arrive à Daniel 9. C'est 8-9 ans après. Là, Daniel, ça nous dit qu'il tombe sur le livre de Jérémie. Okay. Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, Daniel, ils ont vécu plus ou moins en même temps. Et là, il va lire le prophète Jérémie, possiblement les théologiens disent que c'est Jérémie 25 ou 29, qui parle de la prophétie des 70 ans d'exil pour le peuple d'Israël. Et là, il tombe là-dessus. Et Daniel, il lit ça et il fait un petit calcul. Il se dit, OK, à quel moment la prophétie a été faite? Puis là, il y a un changement de roi, etc. Et là, il se dit, OK, l'exil va prendre fin bientôt. C'est une bonne nouvelle. Et là, ce qu'il fait, comme tout grand homme de Dieu dans l'Ancien Testament, quand il s'apprête à être restauré par Dieu, il va faire une longue prière de repentance. Daniel, chapitre 9, de verset 1 à 20 à peu près, il fait une longue prière, un peu comme Néhémie, Esdras ou plein d'autres grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui veulent revenir à Dieu. Il s'identifie au péché du peuple, bien que ses péchés ne soient pas mentionnés, ça a été un homme intègre. Ça reste un pécheur qui a besoin de Dieu, comprenez-moi bien, mais le texte ne mentionne pas ses péchés. Donc il fait une grande prière de repentance et il dit « Seigneur, basé sur ton alliance, on s'est éloigné de toi. On mérite toutes les conséquences qu'on a vécues. Mais parce que tu as un Dieu de compassion, tu as dit que si on se repent, tu allais nous restaurer. » Et il dit ça pour dire « Seigneur, mets fin à l'exil. » Et là, l'ange arrive, répond à sa prière et l'ange, il donne une mauvaise nouvelle en fait. Il va faire comprendre à Daniel, il dit, effectivement, on avait parlé de 70 ans dans la prophétie, mais en fait, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Bienvenue à l'église ce matin. On est content de vous accueillir. Et en fait, ce que l'ange va dire, ce que les théologiens vont dire, c'est en fait, il parle de manière imagée, puis Daniel va même pas tout comprendre, alors que lui avait les codes littéraires de l'époque, mais il va même pas tout comprendre, mais les théologiens vont dire, en fait, l'ange parle de 7 année fois 70. Il parle de 490 ans d'exil. Entre guillemets, c'est une possible interprétation. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est bien que le peuple de Dieu, il y a une partie qui va retourner en exil. Et Daniel, chapitre 10, on va le voir ensemble. En fait, Daniel a décidé de rester en exil, mais une partie est repartie en Israël. Mais en fait, l'exil continue. C'est pas une question de lieu. Ce n'est pas une question de géographie, c'est pas une question. L'exil continue, puis d'après les prophéties, ça va continuer jusqu'au retour de Jésus. Si tu es un disciple de Jésus, tu es en exil aujourd'hui. C'est ça que le texte nous dit. Tu es en exil. On n'est pas sur une terre où tout le royaume de Dieu s'est répandu à 100%, puis il n'y a plus les ténèbres. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On vit sur une terre où il y a un conflit spirituel, puis on va le voir ensemble après. Daniel reçoit une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'était déjà arrivé de recevoir une mauvaise nouvelle de la part de Dieu? Une non-réponse à une prière. D'arriver vers Dieu et de lui dire, Seigneur, pourquoi en fait tu ne guéris pas cette personne? Tu pries quelque chose, tu es sûr, tu es dans la volonté de Dieu, puis en fait, tu te rends compte que ben non, Dieu en a décidé autrement. Pourquoi je vis encore un deuil dans ma famille, Seigneur? Pourquoi tu m'ouvres pas la porte alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour... Daniel a vécu ça, moi je l'ai vécu, puis une des pires années de ma vie, j'ouvre mon cœur ce matin, une des pires années de ma vie, c'était au début de mon ministère, et dès le mois de janvier, j'étais impliqué avec la jeunesse, et dès le mois de janvier, j'ai quand même vécu un découragement, mais qui est resté, un découragement chronique. Dès le mois de janvier, il était là, j'étais proche de Dieu, j'étais discipliné, c'est pas que j'étais éloigné, puis du coup je vivais un découragement, j'étais vraiment proche de Dieu, et je comprenais pas pourquoi ma passion commençait à partir. Donc tous les matins, je me levais, je priais pour ça. Je fais, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle ma passion. Je ne comprends pas pourquoi je me sens loin de toi, je suis en train de me détacher. C'est trop bizarre, Seigneur, renouvelle-moi pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, j'étais tellement découragé, je priais juste, Seigneur, viens juste me parler, s'il te plaît. Viens juste me parler, j'ai reçu aucune parole de ta part. Je lisais la Bible, mais il n'y a rien qui me parlait directement. Ça t'arrive ça des fois, tu lis la Bible de manière régulière, mais il n'y a rien qui vient vraiment te rejoindre dans ta situation. Ça ne veut pas dire que ça ne te parle pas pour plus tard, mais je parle sur le moment, tu as besoin de recevoir une parole. Et on arrive au mois de mars, avril, je prie la même prière depuis des semaines, Seigneur, viens juste me parler, j'ai besoin que tu viennes là. Comme Daniel, je suis à terre, Et là, je reçois une parole. Claire, je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui vient me parler, puis là, je sens que Dieu veut me parler, puis voici les paroles que je reçois. Jérôme, ça va être une année très difficile. Et là, je m'arrête 2 secondes, ça m'a coupé. Je me souviens de là où j'étais, dans la position, à quel moment, tellement ça m'a marqué. Et là, je fais, OK, c'est peut-être moi qui me réponds à moi-même. Et là, j'analyse. Je me dis, non, parce que j'aurais jamais aimé entendre ça. Quelques semaines plus tard passent, mon père décède. Une semaine après, je me pète le genou. J'étais tout seul à la maison, bref. Et puis, quelques semaines après, je vis une transition à l'église. Et c'était super compliqué à gérer, il y avait beaucoup de choses à gérer. Puis là, j'ai une demi-leader qui vient me voir, toujours dans la même année, hein, qui vient me voir et qui dit, écoute Jérôme, C'est vraiment une femme de Dieu, une femme en qui j'ai confiance. On a servi pendant des années ensemble. Et elle vient me voir, elle me dit, Jérôme, pendant qu'on parlait de votre transition, voici les mots que j'ai reçus. Cette transition va être très compliquée. Mais accrochez-vous à sa parole. Voici les deux paroles audibles qui vraiment m'ont impacté dans cette année-là. J'étais découragé. Ce n'est pas les mots que j'aurais aimé recevoir de la part de Dieu. Et effectivement, ça a été la transition la plus difficile de ma vie. Des fois, on reçoit des paroles, puis ce n'est pas ce qu'on attend. Et Daniel était dans cette situation-là. Puis on va voir ensemble comment, parce qu'il a été renouvelé, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a mis en place, quelle attitude il a eue dans Daniel chapitre 10 pour revivre, pour vivre un renouveau avec Dieu. Est-ce que vous voulez regarder ça ensemble? Il y en a qui ont besoin de voir comment Dieu peut encore te renouveler ce matin. Amen. On regarde ça ensemble. Daniel, chapitre 10, versets 1 à 2, premièrement. La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belshazzar. Là, ça dit Belshazzar, en fait, c'est juste pour dire, c'est un rappel qu'il est encore en exil, puisque c'était le nom qu'on lui avait donné en exil. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. C'est pas fini. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Autrement dit, j'ai jeûné et prié pendant 3 semaines. Daniel reçoit une vision. Puis là, c'est certainement 3-4 ans après Daniel chapitre 9. Il reçoit une vision et ça annonce un grand combat. Et son premier réflexe, et ça a été le premier réflexe de toute sa vie quand on analyse le livre de Daniel, c'est qu'il va en prière. Il va en prière, il va rechercher la face de Dieu parce qu'il a envie de comprendre les choses. Il a envie de rester proche de Dieu. Il sait que s'il y a un grand combat, il ne pourra pas combattre tout seul. Il ne pourra pas combattre tout seul. Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dame qui a sauvé énormément de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été emmenée aussi dans un train qui l'emmenait vers les camps de concentration. Voici ce qu'elle a dit en parlant de la prière. Lorsque le train traverse un tunnel et que le monde s'obscurcit, sautez-vous dans le vide ? Bien sûr que non. Vous restez assis et vous faites confiance à l'ingénieur pour vous faire passer. C'est ce que Daniel va mettre en pratique. Il traverse une saison où il est dans un tunnel depuis 15 ans maintenant, avec toutes les visions qu'il a reçues, avec cette mauvaise nouvelle que l'exil va durer. Et lui, ce qu'il va faire, ce n'est pas qu'il va sortir de ce train-là. Ce train-là, ça représente notre cheminement de foi. Ça représente notre vie avec Dieu. Puis des fois, on traverse des tunnels, on ne voit pas la lumière au bout. Et lui, ce qu'il va faire, c'est « Ok, mais je vais faire confiance à l'ingénieur de ma vie, à celui qui tient, à celui qui est l'auteur de ma foi, l'auteur de mon salut. Je vais m'accrocher, même si c'est dur. Et même si ce qu'il a le plus découragé dans sa vie, c'est les paroles qu'il a reçues de Dieu. Il va s'accrocher. Et puis, on va voir ensemble 5 détails, 5 clés, 5 clés concrètes qu'il va mettre en pratique et qui, je pense, peuvent être vraiment utiles pour nous si on veut vivre un renouveau avec Dieu. Premièrement, il prie en premier. Il prie en premier. Daniel 10, versets 4 à 7. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Donc là, il commence à recevoir la vision. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'étais le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Daniel reçoit une vision. Et nous, on a peut-être un peu de mal à comprendre à quel point Daniel a dû être effrayé. Pourquoi ? Imaginez-vous la vision qu'il reçoit. C'est un gars, en fait, c'est un guerrier. C'est un gars qui fait la guerre. Ce n'est pas un ange vêtu de blanc avec une auréole, comme on peut le voir dans les pubs ou dans les films. Non, c'est un guerrier, c'est un gars qui est impressionnant. C'est un ange de l'Éternel, mais qui est en train de faire la guerre, qui combat spirituellement. Et là, il arrive et puis il y a le bruit comme une grande foule, etc. Et les gens qui sont autour de lui, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, mais c'est tellement impressionnant qu'ils fuient. Ils ont peur. Et Daniel se retrouve seul dans ce combat-là. Je pense qu'il y a un détail tellement important, juste dans ça, le fait que Daniel se retrouve seul. Si tu n'es pas celui qui combat plus, celui qui combat le plus dans tes combats, tu ne vas pas gagner. J'ai fait une rencontre pastorale il y a quelques jours avec quelqu'un, puis Puis on parlait de l'importance de vivre sa foi en communauté. Je pense qu'on est tous d'accord, puis à l'épi, on le prêche énormément. Les groupes de maison vivent sa foi. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Okay, il y a énormément de versets dans le Nouveau Testament qui disent qu'il faut prier les uns pour les autres, il faut confesser ses péchés les uns aux autres, il faut porter les fardeaux les uns. Et c'est tellement important. Mais il y a aussi une autre réalité, puis Daniel vient nous l'enseigner ici, c'est que si tu n'es pas le plus investi dans tes combats, ça va être compliqué d'avoir la victoire. Daniel se retrouve seul. Il ne peut pas compter sur ses amis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui prient pour lui, mais là, il se retrouve seul. Ça a été lui, son choix à lui, d'aller en prière, d'aller en jeûne et prière, d'aller chercher la face de Dieu. Il se retrouve seul et c'est à lui de le faire. Combien de fois, et maintenant j'ai arrêté, j'ai compris la leçon, combien de fois je disais à des amis, prie pour moi pour ce domaine, alors que moi-même, je ne priais pas pour moi. Ouais, c'est dur en ce moment. Puis des fois, ça peut devenir inconfort de dire, ah, ouais, à ce moment, c'est compliqué, ouais, prie pour moi. Et en fait, on s'appuie sur les prières des autres. Mais sauf que toi, tu es appelé à combattre en premier pour toi. Et ce n'est pas du tout égoïste. C'est Dieu qui nous le demande. Si toi, tu n'es pas investi pour ta propre vie, les autres ne pourront pas te porter. Les autres portent, mais te portent dans le combat que toi, tu mènes. Si tu ne mènes pas le combat toi-même, ça va être compliqué d'être renouvelé. Ça va être compliqué de vivre un renouveau avec Dieu. Daniel l'avait compris. Et puis lui, même si les autres s'enfuient, moi, je vais prier. Moi, je vais prier. Je vais rechercher la face de Dieu. Donc, pose-toi la question, as-tu cessé de combattre dans la prière? Est-ce que tu as arrêté de chercher la face de Dieu? Est-ce que tu t'appuies seulement sur les autres? Daniel nous rappelle que dans certains combats, tes prières vont compter le plus. Et même dans tous les combats. Donc premièrement, prie en premier. Sois le plus investi dans tes combats. Deuxièmement, prie en action. Prie en action. Daniel 10, versets 8 à 11. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis retrouvé sans force. Encore une fois, encore découragé. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Là où tu es. En effet, j'étais maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la prière, c'est assez mystérieux. Pourquoi ? Il n'y a personne qui a résolu le mystère de la prière, qui a tout compris à 100%, parce qu'il y a différentes tensions dans la prière. Dieu connaît tes prières à l'avance, mais il te demande quand même de lui dire. Première tension. Dieu est souverain sur tout. Mais il veut que tu pries pour que les choses bougent, alors qu'il reste souverain. Il y a différentes tensions comme ça qui peuvent nous amener à mal utiliser la prière. Moi, j'ai vécu il y a plusieurs années, au début de ma conversion, je cherchais un travail, j'avais fini mes études, et j'étais vraiment encouragé par différents versets dans la parole. Souvent, c'est la parole qui dirige même des fois une mauvaise utilisation de la prière. Et j'étais vraiment en mode, ok Seigneur, moi je prie pour que tu me donnes un travail, mais je ne vais pas chercher à côté. Parce que si je cherche à côté, c'est un manque de foi. Je pensais comme ça, parce que j'avais vu les disciples qu'ils ont tout quitté, ils ont suivi Jésus, puis moi j'ai dit, ok, moi je suis quelqu'un qui a une grande foi, j'avais 16-17 ans et je pensais comme ça. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me challenger, me confronter, et je voulais rien savoir. Et j'ai appris par la suite qu'en fait la foi sans les œuvres est morte. Donc en fait, prier avec foi, c'est pas juste croire que Dieu peut faire, c'est croire et obéir en même temps. Daniel, comment il l'a vécu? C'est un petit détail, on peut passer à côté, mais super intéressant. L'ange, il voit Daniel à terre, il le met sur ses genoux, sur ses mains, et après, l'ange arrête, il dit, Daniel, maintenant tu te lèves. C'est pas l'ange qui a mis Daniel debout. C'est Daniel, même s'il était tout tremblant, il a dit, maintenant, mets-toi debout. Parce que je ne vais pas continuer à dévoiler la vision si tu ne te mets pas debout. C'était la responsabilité de Daniel. Comment ça se concrétise pour nous aujourd'hui, par exemple, c'est tu pries pour que Dieu te guérisse, mais prier avec foi, c'est avoir la foi que Dieu peut te guérir à travers la médecine aussi. C'est écouter les médecins, c'est écouter la sagesse des autres, c'est prier pour que Dieu pourvoie à tes besoins financiers, mais c'est aussi mettre en place, d'apprendre à gérer un budget, d'apprendre à épargner, d'apprendre. Tout ça, c'est pas incompatible, ça va ensemble. Sinon, c'est pas de la foi, c'est de la folie. Si tu pries que Dieu intervienne dans ta vie, mais que toi-même, tu n'es pas investi et tu ne mets rien en place, Dieu ne va pas intervenir. Tu vas rester sur tes genoux et sur les paumes de tes mains comme Daniel. Mais Dieu te demande mets-toi debout. Tu as des choses à mettre en place. Si tu dis, Seigneur, en ce moment, je suis fatigué, mais en même temps, si tu te couches tous les soirs à 2h du matin, puis si tu manges la crème glacée jusqu'à minuit, c'est normal que tu es fatigué. C'est normal. Et même si je crois que Dieu est tout-puissant, il ne va peut-être pas te renouveler. Parce que sinon, il va juste faire de la cistana, en fait. Mais Dieu veut nous rendre responsables, Dieu veut nous rendre matures, autonomes, Dieu veut nous autonomes, dépendants de lui, mais le côté où il faut qu'on grandisse, il faut qu'on mette des choses en pratique que sa parole nous enseigne, en même temps qu'on prie pour que Dieu intervienne. Daniel ne pouvait pas se mettre sur ses genoux, sur ses mains, par contre, il pouvait se mettre debout. Parce que Dieu l'a mis sur ses genoux, sur ses mains. C'est un partenariat avec Dieu. Prie en action. Prie en action. Troisièmement, prie encore. Prie encore. Daniel 10, versets 12 à 14. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Combien de fois ce verset est venu m'encourager? Tes prières ne sont pas écoutées par Dieu. Tes prières sont entendues dès le premier jour. Chaque larme qui tombe, Dieu les réceptionne et puis il entend tout ça. Il entend le cri des malheureux. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours dès le début où Daniel a commencé à prier. 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux, c'est pas Michel Schneider, hein, rassurez-vous, il n'était pas présent à ce moment-là. L'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Vincent Collet. Vincent Collet, c'est l'entraîneur de basket de l'équipe de France actuelle. Et en 2023, il y avait la Coupe du Monde. La France était une des favorites, même au-dessus des États-Unis qui étaient affaiblis à ce moment-là. Et c'était, l'équipe de France était une des favorites. Et ils y sont allés, les spécialistes vont dire qu'ils y sont allés un petit peu à l'orgueil. Okay, on va s'appuyer sur qui on est. Ils avaient des grands noms qui jouaient en NBA, tout ça. Et ils ont joué leurs deux premiers matchs. Ils se sont fait défoncer. Ils ont perdu. Ils se sont fait éliminer. Au bout de 2-3 matchs, ils se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Et Vincent Collet a dit une chose intéressante. Il a dit, on était prêts à gagner, mais pas à se battre. On était prêts à gagner parce qu'on avait les joueurs pour ça. On avait l'expérience pour ça, mais on n'était pas prêt à se battre. Pour ceux qui étaient là, début février, on a eu notre session de jeûne et prière avec le pasteur Emmanuel Menlein, et il nous a parlé du fait qu'on est victorieux en Jésus. Jésus est assis à la droite dans les lieux célestes, et puis nous, on est assis avec lui, une fois qu'on a accepté Jésus, donc on est victorieux en lui. Par contre, il disait que Dieu nous appelle à vivre toutes les conséquences de cette victoire en combattant spirituellement dans la prière. Ce n'est pas pour devenir victorieux, c'est pour rester dans cette victoire, pour rester dans le côté, dans toutes les bénédictions que Dieu nous a données. On est victorieux, mais il faut le vivre, il faut vivre la victoire en combattant. Et je pense qu'on ne saisira jamais toutes les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de persévérer. Parce que croyez-vous vraiment que ce soit notre persévérance qui change les choses? Est-ce que vraiment Dieu, puis là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est même pas Dieu qui combat, c'est ces gens. C'est les anges de Dieu qui combattent. Dieu reste assis sur son trône. Dieu n'a pas besoin de combattre. Dieu, s'il faisait du MMA, il n'aurait aucun concurrent. Il aurait toutes les ceintures autour de lui, il n'aurait même pas besoin de combattre. Vous savez pourquoi? Il a déjà gagné en faisant une technique. Vous savez c'est laquelle? C'est celle-là. Il a mis tout le monde KO en écartant les bras et puis en mourant pour nous. Amen. Dieu est le GOAT. Dieu n'a aucun challenger. Même le diable se bat avec les anges de Dieu, mais il ne se bat pas avec Dieu. C'est très bien qu'il n'a aucune chance. Aucune chance. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de persévérer s'il est souverain? Je pense qu'il y a plein de raisons qu'on saisira certainement juste au ciel. Mais moi, j'aimerais juste en développer deux. Premièrement, c'est que persévérer dans la prière, dans un combat, ça te garde dépendant de Dieu. Ça te garde dans l'humilité. Parce que quand tu pries, en fait, tu pries parce que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Pour n'importe quel domaine. Mais quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, ça veut dire que tu as besoin d'aide ultimement. Et deuxièmement, je pense que ça développe ton caractère. Ça développe notre caractère. Le recours à la prière, c'est reconnaître que tu as besoin d'aide parce que tu t'adresses à Dieu par rapport à des besoins spécifiques. Et plus tu développes ce réflexe de prier, plus tu restes dans l'humilité de ton besoin de Dieu. De ton besoin de Dieu. Et à mon avis, il y a un côté où Dieu, à travers l'épreuve, c'est pas tant que notre persévérance, comme je dis, fait bouger la main de Dieu, mais plutôt que Dieu fasse grandir notre persévérance en nous faisant attendre. Si on persévère, bien sûr. Jerry Sitzer, qui est un théologien, a dit la chose suivante. Puis c'est aussi une image qui est intéressante pour comprendre la persévérance. Mes gamins m'ont demandé bien des choses au fil des ans. un lecteur CD, bon c'était à mon avis il y a 20 ans, mais un lecteur CD, un vélo, un bateau, une voiture, une maison, des vacances exotiques, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ignore ces requêtes la plupart du temps. J'ai le cœur aussi dur que du granit quand il s'adresse à moi. Mes oreilles se dressent par contre quand ils insistent, parce que cela prouve qu'ils désirent vraiment ce qu'ils demandent. Je trouve ça intéressant. Puis une autre histoire aussi, moi, qui m'a impacté, qui montre à quel point Dieu veut développer notre caractère. C'est l'histoire, une histoire fausse bien sûr, d'un homme qui habite dans une maison, puis Dieu place un énorme rocher devant sa maison. Et Dieu dit à cet homme, « Ok, tu vas sortir tous les jours et tu vas pousser le rocher. Je te demande de pousser le rocher. » L'homme dit, « Ok, c'est bon, j'y vais, je te fais confiance. » Il pousse le rocher, il pousse, il n'y arrive pas. Ça dure des jours, des semaines, des mois. Et là, il est fatigué, il n'en peut plus. Il va voir Dieu, il dit, « Écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit, ça n'a rien changé. » Ça n'a absolument rien changé, je n'ai même pas déplacé le rocher d'un millimètre. Et Dieu lui répond, mais je ne t'ai jamais demandé de déplacer le rocher. Je t'ai demandé de pousser le rocher. Il dit, mais ça sert à quoi? Ça n'a rien changé, ça n'a pas changé ma situation. Il dit, ah ouais? Il dit, regarde-toi dans le miroir, regarde tes bras, regarde tes épaules, regarde tes cuisses, regarde à quel point tu es devenu musclé, à quel point tu es devenu endurant. Et je pense que des fois, Dieu, on ne comprend pas pourquoi il ne répond pas, mais des fois, persévérer, rester dans le côté où on s'accroche à Dieu, ça développe notre caractère pour d'autres épreuves qu'on aura à vivre par la suite. Et ça, il faut le remettre à Dieu, parce que Dieu seul sait à quel point toutes les épreuves qu'il nous permet, elles sont là aussi pour notre bien. On ne pourra jamais le saisir. Et peut-être c'est dur d'entendre ça aussi, mais Dieu reste souverain et c'est exactement tout ce qu'il y a de bon pour nous. Chaque épreuve, Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire. Et ça ne veut pas dire qu'il ne change jamais notre situation. Non, il y a tellement de témoignages où Dieu change la situation. Mais des fois, quand il ne la change pas, il veut développer notre caractère également. Prie encore. Prie encore. Citation d'un théologien que j'aime beaucoup, Sinclair Ferguson, qui a dit la chose suivante sur la prière. Notons toutefois que parler du pouvoir de la prière peut être trompeur. Deux éléments doivent être ajoutés afin de persévérer de tout abus. La première est que le pouvoir n'appartient pas à celui qui prie ou à la prière, mais à Dieu. C'est tellement important de le remettre en contexte. La prière n'a pas de pouvoir en soi. La prière est une dépendance totale à l'égard de Dieu. Elle est la confession que nous ne pouvons rien faire et que Dieu seul peut agir. C'est pour ça que tous ceux qui vont dire « prie avec l'autorité », non, tu n'as aucune autorité, l'autorité vient de Dieu. Là. Arrête de dire que ta prière change les choses avec... Puis là, je parle avec tous ceux qui prêchent sur Internet, et je ne vais pas citer de nom, mais il y en a tellement qui disent ta prière, Dieu t'a donné. L'autorité vient de Dieu. Ok ? C'est Dieu qui change les choses. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas les mots que tu emploies, c'est Dieu qui change les choses. C'est dit. Elle est la confession que nous ne pouvons rien faire, que Dieu seul peut agir. Si, dans notre autosuffisance et notre folie, nous devions penser autrement, une relecture de Daniel 10 devrait faire office de remède. Ici, un homme de prière est en deuil. Il n'a plus de force, mais il découvre que sa vigueur s'est transformée en fragilité et qu'il n'a plus de force. C'est ce qu'implique, le fait de faire appel à la puissance divine pour nous aider dans notre faiblesse. Des trésors spirituels sont conservés dans des vases d'argile, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Puis là, il est juste en train de citer 2 Corinthiens chapitre 3, où ça dit qu'en fait, toute la gloire ne revient pas à nous. Même si tes prières sont répondues, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à la puissance de Dieu et puis à sa compassion. Daniel a persévéré 21 jours. Mais sans le prochain principe, certainement que rien ne se serait passé. Prie avec humilité et authenticité. Daniel 10, versets 15 à 17. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche. Là, on voit encore un partenariat. C'est l'homme qui touche ses lèvres et ensuite il peut parler. C'est les deux. J'ai ouvert la bouche et il me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition. J'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur, désormais que je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle ?» Daniel est à bout de souffle. Il est à bout de souffle. Et là, c'est la première fois, quand on lit de Daniel 7 à maintenant, c'est la première fois qu'il va le dire à Dieu, qu'il va le dire à l'homme qui est en face de lui, qui possiblement représente Jésus. C'est la première fois qu'il va le dire. Les autres fois, c'est des informations qu'on a. Moi, Daniel, j'ai été malade. Et là, c'est la première fois qu'il ose le dire à Dieu. Je connais trop de personnes qui aiment dire aux autres « Ah, je suis fatigué en ce moment », mais qui n'osent pas le dire à Dieu. Et je connais même des personnes qui, au plus tu agis comme ça, au plus ça devient à la mode de « Ok, ouais, à ce moment, je suis fatigué, je suis... » mais est-ce que tu l'as dit à Dieu? Est-ce que tu as envie de vivre un renouveau avec Dieu? Ben non. Ben, tu ne vas pas vivre de renouveau, alors il faut que tu le dises à Dieu. Prier avec authenticité, avec humilité, c'est déverser son cœur devant Dieu puis reconnaître, Seigneur, là je ne peux pas. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle parce que le royaume de Dieu est à eux, mais il faut que tu le reconnaisses devant Dieu. Il y a trop de personnes qui ont pris l'habitude, un peu comme le peuple d'Israël quand ils sortent d'Égypte. Tu vois à quel point ils ont eu le cerveau lavé parce qu'à un moment donné, ils vont dire « Hey, on préfère retourner en Égypte. On préfère retourner esclave, on était mieux. » Et là, c'est là où tu vois qu'ils ont besoin d'avoir un changement d'identité dans leur tête parce qu'ils ont tellement été habitués à cette souffrance-là, c'est devenu un repère. Et je connais trop de personnes qui sont habituées à être fatiguées, à avoir besoin d'être renouvelées, mais qui ne veulent pas être renouvelées finalement. Ils le disent autour d'eux. Mais tu sais, c'est vraiment drôle. J'ai discuté avec Mathieu cette semaine et c'est un pasteur qui a dit ça une fois. Il fait, c'est quand même drôle que... Puis souvent, ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui ne mettent pas en pratique le côté de se reposer, le côté de... Tout le sabbat, tu sais, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, même si ce n'est pas une journée à part entière à mettre dans une semaine, mais c'est le côté prends du repos, prends du temps avec Dieu. Et c'est vraiment intéressant que la fatigue aujourd'hui, c'est un des seuls... Enfin, trop travailler, pardon, c'est un des seuls péchés dont on est fier. C'est le seul péché des 10 commandements où on aime le dire à l'église. Ah, je travaille beaucoup, mais bon, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis, il y a un pasteur qui avait dit une fois, c'est marrant qu'il n'y a personne qui dise « Ah, j'ai trompé ma femme, mais bon, c'est pour la gloire de Dieu. » C'est un péché populaire, le fait de ne pas respecter le sabbat. Sauf qu'en fait, c'est un péché quand même. Si tu t'arrêtes jamais, si t'es addict au travail, si tu passes ton temps juste à travailler, à être fatigué, en fait, il faut que tu t'arrêtes pour être renouvelé aussi avec Dieu. Et il faut que tu le dises à Dieu, comme Daniel a fait. Daniel a dit « Écoute, là, j'ai plus de force, je ne peux pas continuer. » Je ne peux pas continuer, je ne peux pas continuer à t'écouter, je suis à bout de souffle, j'ai plus de respiration, j'ai besoin que tu viennes intervenir, j'ai besoin que Dieu pose sa main sur moi. Une prière toute simple, qui peut paraître égocentrique. Voici ce que John Ottberg a dit. Je vais appeler l'équipe de louange à revenir, s'il vous plaît. John Ottberg a dit la chose suivante. Vous pouvez vous étonner d'offrir à Dieu une prière qui semble si banale, voire égoïste. Cependant, rien ne tue la prière plus rapidement que lorsque je prétends dans la prière être plus noble que ce que je ne suis en réalité. Si quand tu pries, tu veux juste montrer quelqu'un que tu n'es pas en ce moment, tu n'es pas sincère, puis Dieu ne va pas écouter ta prière. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu dises tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il le sait, et puis on revient à la tension de la prière. Dieu connaît tout, mais Dieu veut que tu le dises. Dieu veut que tu t'humilies. En fait, il ne prend pas plaisir à ce que tu t'humilies, il prend plaisir à ce que tu t'humilies pour qu'il puisse agir dans ta vie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit à Dieu que tu étais fatigué? Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit à Dieu, là, j'essaye encore d'avancer, mais je n'y arrive plus, il faut que tu le dises. Puis Dieu est très à l'aise à savoir ça. Peut-être même que c'est les paroles que tu as reçues de lui ou des choses que tu as vécues, puis tu as l'impression que c'est lui le fautif, il faut que tu le dises à Dieu. Il faut que tu le dises à Dieu. Puis, c'est mon appel ce matin, j'aimerais vraiment, on peut se lever ensemble s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent. Quand je préparais ce message, j'avais vraiment ce je sais pas si c'est moi, si c'est Dieu, peu importe, je le dis, mais il y avait ce côté où il y a plusieurs personnes ici, tu fais semblant d'aller bien. Fais semblant d'aller bien. Même si peut-être tu l'as dit à certaines personnes ou autres, mais je pense que mon appel premier ce matin, c'est et si on le disait à celui qui est capable de tout entendre, à celui qui peut nous renouveler, à celui qui peut nous donner des forces nouvelles, à celui qui a aussi été fatigué au jardin de Gethsémané et qui l'a dit à Dieu, à celui qui nous montre l'exemple de comment faire, à celui qui a renouvelé Daniel, parce qu'on va le lire après, Daniel a été renouvelé, une main m'a touché, il a repris toute force, et d'ailleurs on va juste lire le passage, et il prie, et c'est le cinquième détail, Daniel prie pour écouter, voici le point.
Daniel 10, verset 18-19. « Alors celui qui avait une apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » C'est à lui de se fortifier, mais Dieu le touche. « Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il n'a pas juste prié, « Seigneur, renouvelle-moi. » Non, c'est « Renouvelle-moi parce que j'ai encore envie de te servir. » J'ai encore envie de t'écouter. J'ai encore envie de savoir qu'est-ce que tu as à dire sur l'avenir de mon peuple. Il a envie de continuer d'avancer. Et j'aimerais juste lancer cet appel. On peut fermer les yeux ensemble. Peut-être, tu es là ce matin, tu as besoin d'être renouvelé. Ça fait peut-être des jours, des mois, des semaines, des années. Tu n'as pas osé le dire à Dieu. J'aimerais juste que tu fasses cet acte de foi. Pendant que tes yeux sont fermés, lève la main si tu as besoin de le dire à Dieu. Dieu entend ton cœur, mais sois sincère. Dis-lui tout ce qu'il y a sur ton cœur. Dis-lui toute la souffrance qu'il y a. Dis-lui la fatigue qu'il y a. Peut-être que tu n'as jamais osé lui dire tout ce qu'il y avait. Fais-le ce matin dans ton cœur. Lève la main, puis je vais juste prier pour toi encore ce matin. Je vais prier pour toi, puis toute l'église va prier pour toi, même si on ne connaît pas peut-être ton prénom. Mais peu importe, Dieu te voit. Et faire juste cet acte de lever la main, c'est aussi une manière de... Ok, je vais m'humilier devant mon Dieu parce que c'est le seul à pouvoir me renouveler de cette manière. Seigneur, je te prie pour toutes les mains qui sont levées ce matin. Tu les reçois. Dès le premier jour où ils ont commencé à prier, tu as écouté, tu as entendu leurs paroles. Seigneur, je te prie de venir les toucher comme tu as touché Daniel, comme tu as posé sa main sur lui, comme tu l'as remis sur ses genoux, comme après tu lui as dit de se remettre debout, comme tu as touché sa bouche pour qu'il puisse exprimer sa fatigue. Seigneur, je te prie encore de toucher toutes les personnes là qui lèvent la main et qui font cet acte de foi de dire, Seigneur, je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Tu es celui qui renouvelle nos forces chaque matin, celui qui renouvelle ses bénédictions envers nous chaque matin. Alors ce matin, Seigneur, en tant qu'église, tous ceux qui lèvent la main, on prie pour tous ceux qui ont besoin d'un renouveau avec toi, d'être ressourcés avec toi. Peut-être qu'il y en a qui traversent des épreuves difficiles, que ce soit des peu importe, un deuil, une maladie, peut-être par rapport au travail, peut-être un combat spirituel intense par rapport à un péché. Seigneur, tu es avec eux, tu es en train de les fortifier pour on te prie de venir poser ta main et qu'ils puissent se relever parce que tu leur donnes la force de se remettre sur les genoux et que vraiment ils puissent se relever et dire « mais je vais continuer d'avancer ». Je vais continuer d'écouter mon Dieu, même si parfois c'est dur, mais la victoire appartient à Dieu, à Jésus. La victoire appartient à celui qui me renouvelle maintenant. Alors Seigneur, viens intervenir. Et on va chanter ce chant ensemble qui dit « Là, dans le feu ». Alors que tout peut s'effondrer, Seigneur est avec nous dans le feu. Même si je suis inondé dans un océan d'incompréhension, de torpeur, Dieu est avec moi. Et là, dans le feu, sa lumière brille. Alors qu'on puisse chanter ce chant ensemble, tous ceux qui ont levé la main, puis même ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce qu'on peut chanter ce chant pour dire « Le Seigneur sera toujours victorieux. Si je garde la foi, le Seigneur sera toujours à mes côtés. Le Seigneur sera toujours là. Même si tu as abandonné Dieu, le Seigneur sera toujours à tes côtés. » Alors on chante ensemble s'il est là avec moi dans le feu. Il a été là et il sera encore là avec moi dans le feu.
On fait ensemble cette prière. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le notre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent. Acclamons-le ensemble. Toute ma tête a quitté, oui, a touché. Le péché n'a plus aucun pouvoir. sur ma vie.
Et s'il m'arrivait,
et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce
moment. Oh, je sais, et je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu,
là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi.
Dieu de lumière,
je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit.
Je sens la terre trembler
là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer,
rien ne peut nous séparer. Peut nous séparer de l'amour de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Soyons fiers, chrétiens. Chantons-le.
Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus.
Amen.
Lui qui était et qui est et sera.
Donc peu importe mes frères et sœurs.
Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis. Je sais que je ne serai jamais.
Oh, prends cette parole pour toi. Oh, je sais,
et je sais que je ne serai jamais seul. Sera avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour.
Confessons-le. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Un des meilleurs moyens de se réjouir dans l'épreuve, vous savez c'est quoi? C'est de se rappeler que Jésus est mort pour nous. On va prendre la Sainte Cène ensemble, ça commence déjà à être distribué, et on va la prendre peut-être avec une manière dont on n'a pas l'habitude de la prendre. On va la prendre en se réjouissant. Okay. Souvent on fait une introspection ou côté solennel, et c'est bon aussi.
Mais ce matin, on va l'apprendre en se souvenant que si Jésus nous a demandé de prendre ce pain et ce vin, c'est aussi pour nous rappeler qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, chaque jour, dans chaque situation, dans chaque épreuve. Qu'à la croix, il a ressenti tout ce que tu ressens en ce moment, toutes tes souffrances, tous tes défis, tous tes péchés, il a porté des conséquences à la croix. Puis se prendre la Sainte Cène, c'est aussi se rappeler ça. C'est aussi se rappeler que Dieu est à nos côtés. C'est aussi se rappeler que Jésus sera toujours là jusqu'à la fin. On a chanté qu'il était avec moi dans le feu. Vous savez à quoi ça fait référence aussi ce chant ? Les amis de Daniel. Quand ils vont être dans le feu, il y a un quatrième homme qui va être là. Et ce qui est trop intéressant aussi, c'est quoi ? C'est que quand les trois amis sortent, en fait, ils sont que trois à sortir. Le quatrième, il est resté dans le feu. Parce qu'il sait très bien qu'un disciple de Jésus, il retourne dans le feu régulièrement, mais le quatrième homme, il est toujours là. Il est avec toi dans le feu que tu traverses actuellement, il sera avec toi dans le feu que tu vas traverser demain. Il était avec toi, puis moi je lève la main, s'il y en a qui peuvent lever la main et dire « il était avec moi hier dans le feu ». Il était avec moi, le quatrième homme, il était là, j'ai pas été brûlé, j'ai été renouvelé, il était avec moi, puis il reste dans le feu parce qu'il sait très bien qu'il y en a d'autres qui vont traverser le feu. Alors est-ce qu'on peut prendre la Sainte Cène en remerciant Dieu, en disant « Seigneur, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu nous suffis, merci parce que même si on perd tout, tu restes à nos côtés, et merci pour la croix, là où tu as tout défait, Seigneur, tu as défait toutes les autorités célestes, tu as mis en spectacle, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui voulaient détruire notre âme, Seigneur, tu es victorieux, et on est assis à la droite du Père à tes côtés. Alors on prend ce pain en se rappelant que ton corps était brisé, que tu es mort, Seigneur, que tu es victorieux en étant mort pour nous. On prend cette coupe en se rappelant que ton sang a été versé pour le nombre d'un grand péché, pour le grand nombre de plusieurs péchés, Seigneur, d'innombrables péchés. Et on te remercie pour ça. On te remercie pour ça, puis on va finir cette célébration en t'honorant, en te célébrant, en se réjouissant, peut-être même en dansant pour certains, si c'est ton expression de louange, on va chanter qu'il transforma l'eau au vin. Il toucha l'aveugle de ses mains, nul n'est comme notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, alors faites attention de ne pas renverser le jus de raisin à vos voisins, est-ce qu'on peut acclamer la grandeur de notre Dieu ? Amen, on chante ensemble, nul n'est comme toi. De l'impossible.
Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu vis. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu.
va confesser, le proclamer. Si notre Dieu ensemble.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Qui pourra nous arrêter de nous relever dans le nom du Seigneur, d'annoncer cette bonne nouvelle de la grâce?
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera?
Si notre Dieu proclame.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera?
Si notre Dieu.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Oh, qui sera
contre nous?
Oh, si notre Dieu.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre
nous? Si notre
Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Admirable, inébranlable, incomparable.
Tout le monde est Dieu.
Admirable, inébranlable, incomparable.
Ouais, c'est bien, mais je pense qu'on peut pas un peu plus proclamer, on y va.
Dieu. Admirable, inébranlable,
tout le monde.
Incomparable.
Dieu admirable.
Dieu admirable, inébranlable.
Allez, tout le monde, on y va. On y va, on tape dans les mains, hein. Hey,
Dieu.
Hey.
Il est bon là.
Proclame-le, incomparable. Oui, Dieu admirable.
Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable.
L'éternel est ma force.
L'éternel est ma force.
Hey, l'éternel est ma force. À vous.
L'éternel est ma force.
L'éternel est mon Dieu. L'éternel est mon roi, à vous.
L'éternel est mon roi.
La joie de l'éternel sera ma force.
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 Dieu.
Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
Est-ce que l'église est un peu fatiguée ce matin ou pas? Alors on tape dans les mains ensemble, on y va, tout le monde.
Hey. Inébranlable.
Les îles, elles espéreront en l'éternel ce matin. Hey.
Dieu.
Oh.
Jésus est tout puissant.
Hey.
Jésus est tout puissant.
Il est le roi des rois.
Personne n'est comme lui.
Personne n'est comme lui.
Oh, j'aime Jésus-Christ.
Hey. J'aime Jésus-Christ.
Mon Dieu est vivant.
Mon Dieu est vivant.
Il est mort pour moi.
Il est mort pour moi.
Son nom est le Dieu grand.
Son nom est le Dieu grand.
En lui mon âme vivra.
En lui mon âme vivra.
Je ne suis pas fatigué.
Je ne suis pas fatigué.
Fatigué,
je ne suis pas fatigué
de le célébrer.
De le célébrer.
Allez, une dernière fois ensemble, Dieu admirable.
Dieu admirable.
Il est.
rabattriez-vous l'église. Tu es admirable. À vous, église. On a cappella pour finir, on bloque tout. 1, 2, à vous.
Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
Dieu admirable, encore une fois.
Dieu admirable.
Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? On peut pas arrêter ça, alors on va continuer avec toute la musique. 1.
Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
Oui, tu es incomparable, Seigneur.
Dieu.
Oh, oh,
oh. Inébranlable, incomparable, incomparable.
Encore une fois, encore une fois.
Dieu,
la joie de l'Éternel sera ma force. La joie de l'Éternel sera ma force. Écoute nos prières, Seigneur, de joie.
Dieu, oh, inébranlable, incomparable.
Allez, une dernière fois ensemble. À Dieu soit toute la gloire. Toute la gloire. Qui empêchera les élus de Dieu d'adorer leur Seigneur? Nous pouvons adorer, nous pouvons élever, nous pouvons le célébrer. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Aucun autre nom nous ait été donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous confessons ici à l'épi que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. À Dieu soit toute la gloire.
Amen.
Je ne sais pas comment tu vas rebondir après ça, mais...
Jérôme m'a dit, il va falloir que tu annonces la suite en chantant. J'ai dit, ok, improvisé. Là, tu as mis du level, gars. Franchement, c'est à fond, franchement. Alors, j'ai envie de vous dire, on a été bénis, c'était vraiment génial, et on n'est pas bien là. Ok, on a envie de rester, mais le plus important, c'est d'apporter ce qu'on a reçu à l'extérieur, dans nos familles, voisinage et tout ça. Donc vous le savez, Seigneur, j'en peux plus, je suis à bout de force, mais je vais pousser le rocher pour avoir les forces qui se développent pour maturer. Et cela en priant, priant avec action, prier encore, prier avec authenticité et humilité, et prier pour écouter. Amen. C'est le devoir de la semaine. Ok, on va y arriver, on va y aller. Et ceci dit, quand on prie et quand il y a les actions, la semaine dernière, on vous a annoncé Épicollecte aujourd'hui. Et vous allez avoir une petite image. Voilà l'action. Merci, vraiment. Vous pouvez déposer encore et encore. Et ça se passe une fois par mois. Comme quoi, on prie, ok, j'en suis sûre qu'il y en a qui sont dans le besoin, qui sont en train de prier, et l'action, elle est là. Alors merci à vous tous et allez-y encore, donner généreusement. Et bien sûr, ceux qui ont été interpellés par le message, ceux qui ont été touchés, ceux qui ont besoin peut-être d'être écoutés et qu'on prie pour vous, vous savez qu'il y avait une équipe d'écoute et prière qui va s'installer sur votre droite et à ma gauche. Donc voilà, soyez bénis encore, passez une bonne semaine. Soyez bénis les internautes et à la semaine prochaine.